écrit ce livre, qu'est-ce que cela donnerait à votre avis? Je ne sais pas par rapport à vous, moi j'étais fort frappé dans ces dernières semaines, à quel point il va tout droit au but. On se prend un peu des claques, n'est-ce pas? Lorsqu'il met le doigt sur quelque chose dans notre vie qui ne va pas. Et aujourd'hui, il va faire la même chose. Sa question pour nous, c'est est-ce que vous avez une foi authentique ou pas? Avez-vous une foi authentique ou pas? Les anges sont importants. La semaine passée, Jacques nous a dit que la Bible n'est pas là pour être méditée et lue seulement, mais pour être mise en pratique. C'est ça la vraie religion, dit Jacques. Et si vous avez la Bible, et si vous pouvez l'ouvrir à la page 1217, ce serait utile. On va relire les versets 26 et 27 de la fois passée. Jacques dit ceci. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trempant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Jacques nous dit, attention, avant de penser tout de suite que vous êtes dans le bon, est-ce que vous avez une foi qui se traduit dans des actes concrets, qui se garde de la mentalité de notre société qui nous entoure? Mais prions ensemble avant de commencer. Notre Père, te louons pour ta parole. Nous te louons parce que par elle, tu nous parles puissamment. Et ce matin, nous te prions que tu t'adresses à nous dans ta toute puissance, dans ta souveraineté, dans ta grâce, pour nous aider à savoir si nous avons bel et bien une foi authentique ou pas. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Voilà le domaine que Jacques aborde dans la première moitié de ce passage. C'est un risque que nous courons tous. C'est de faire preuve du favoritisme. Faire preuve du favoritisme entre les gens. Jacques veut nous en avertir. C'est cela. Il dit au verset 1 à 13, pas de favoritisme dans la foi. Pas de favoritisme dans la foi. Il faut dire que ces versets m'ont vraiment, vraiment travaillé cette semaine. Et donc j'espère que cela va faire la même chose chez vous. Le commandement est très clair au verset 1, relisons le verset 1. « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. » Très clair, n'est-ce pas? Dans les rayons des supermarchés, je ne sais pas où vous allez faire vos courses. On ne peut pas aller tout le temps à Carrefour maintenant parce qu'ils font grève. Mais dans les rayons, on trouve les produits sans gluten, souvent. Sans sucre, sans goût. Non, mais ainsi de suite. Il y a des choses qui sont libres de tous ces ingrédients. Et Jacques dit que notre foi doit être libre de tout favoritisme. Sans favoritisme. Devrait être l'étiquette qu'on peut mettre sur notre foi. Mais qu'est-ce qu'il veut dire exactement, le favoritisme? Il donne un exemple très très pratique au verset 2 et 3, n'est-ce pas? Lisons ces versets. « Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à la place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi debout. » ou « Assieds-toi au-dessus de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges de pensées mauvaises ?» Il s'agit de la réunion de l'Église, probablement comme ici ce matin, et deux personnes entrent dans la salle. Une personne, peut-être un personnage assez haut placé dans la société, un politicien, un avocat, un sportif de haut niveau. Peut-être c'est vous ici ce matin. Et l'autre personne est mal habillée, ne s'est vraisemblablement pas lavée depuis plusieurs jours. Les deux franchissent les portes de l'église, pas ensemble. Et comment réagirions-nous? Je pense qu'on se précipiterait pour accueillir la personne qui présente bien, n'est-ce pas? On espérait que quelqu'un d'autre s'occupe du SDF. qui est entré dans la salle. On risque de s'asseoir plus facilement à côté de la personne présentant bien et éviter de s'asseoir à côté du pauvre. Cette semaine dans le métro, quelqu'un est venu s'asseoir à côté de moi et il ne sentait pas bon, il faut le dire. Honnêtement, c'était très désagréable. J'essayais de respirer le moins possible. Mais j'étais plutôt content lorsque j'étais arrivé à ma destination pour pouvoir enfin sortir, descendre. Mais est-ce que vous avez eu des expériences pareilles? Mais lorsque la même personne se présente à l'église, et si je ne me précipite pas pour aller l'accueillir, si je préfère m'occuper des personnes qui sont comme moi, Jacques dit qu'il y a un sérieux problème avec ma foi. Le verset 4 dit que je suis un juge avec des pensées mauvaises. Mais pourquoi est-ce qu'une telle attitude est mauvaise? Cela vient presque instinctivement pour nous, n'est-ce pas? Le verset 5 à 13, Jacques nous donne trois raisons pour lesquelles une telle attitude est inadmissible chez un chrétien. Et premièrement, parce que Dieu estime les pauvres. Dieu estime les pauvres, versets 5 à 6. L'échelle de valeur de Dieu est aux antipodes de la nôtre. Lorsque nous voyons quelqu'un de loin, on se demande instinctivement, est-ce que cette personne mérite mon temps, mon attention? Je ne sais pas si ça, vous faites ça vous-même. Et nous pensons que la réponse à cette question est la même concernant le regard de Dieu envers elle. Nous pensons, nous considérons peut-être que les riches sont plus importants aux yeux de Dieu. Mais qu'est-ce que Jacques dit au verset 5? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Peut-être qu'ils ne bénéficient pas d'autant de bénédictions matérielles maintenant, mais Dieu choisit souvent de sauver les pauvres pour leur donner la richesse spirituelle, un royaume éternel. Bien sûr, il y a des exceptions. Merci Seigneur qu'il choisit aussi de sauver des personnes riches, élevées de la société. Mais dans sa sagesse infinie, Dieu préfère, selon ce verset, souvent choisir ceux qui sont exclus, méprisés dans la société pour être riches dans la foi, pour hériter de son royaume glorieux. Et dans la prochaine fois que nous sommes tentés de faire preuve de discrimination contre quelqu'un qui est pauvre, rappelons-nous, Dieu choisit souvent de sauver les pauvres. Peut-être Dieu veut sauver cette personne ici. Il veut que nous prenions notre méthode d'estimation de l'importance des gens. Ah voilà, telle personne très importante, une autre personne pas très importante. Il veut que on le jette à la poubelle. Donc, première raison, Dieu choisit souvent de sauver les pauvres. Deuxième raison, c'est parce qu'à l'époque, les riches opprimaient les chrétiens. Les riches opprimaient les chrétiens. Lisez le verset 6 avec moi. Et vous, vous méprisez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Les chrétiens auxquels Jacques écrit sont empressés à honorer le riche. Mais Jacques dit, mais réfléchissez un petit peu. Qui est-ce qui vous paye des salaires misérables? Les riches étaient en train d'opprimer ces chrétiens. Et de plus, les riches ridiculisaient le beau nom que portaient les chrétiens. Le beau nom du Seigneur Jésus. Les riches persécutaient les chrétiens. Et cela peut être encore le cas aujourd'hui. Qui passe les lois qui promeuvent les droits à l'avortement et qui veulent réduire au silence tous ceux qui s'y opposent? C'est les politiciens, les puissants de ce monde. Et pourtant, si un politicien venait ici, nous serions tentés de l'accueillir beaucoup plus chaleureusement que beaucoup d'autres personnes. Bien sûr, Jacques ne veut pas que l'on soit méchant ou froid envers de telles personnes. Mais il veut éliminer de notre esprit toute échelle de valeur, d'importance, basée sur les valeurs de notre société. Que ce soit l'argent, la couleur de la peau, la nationalité, l'arrière-plan, l'accent, la langue maternelle, l'intelligence, et ainsi de suite. Que notre foi soit exempte de tout favoritisme. Et la troisième raison qu'il donne, c'est au verset 8 à 13, c'est parce que lorsqu'on fait preuve du favoritisme, on est en train de violer la loi divine, de transgresser la loi divine. On pourrait se dire, mais faire du favoritisme, c'est pas si grave que cela, pour finir. Mais lisons le verset 8. « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien, mais, verset 9, si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. » Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Si nous n'obéissons pas à cette loi fondamentale de Jésus, tu aimeras ton prochain comme toi-même, on est en train de transgresser la loi qu'il nous a donnée. Pas la loi de Moïse ici, mais la loi que Jésus nous donne. Tous les commandements qui sont repris dans le Nouveau Testament, tout ce qu'il nous enseigne. Parce que Dieu, c'est le même qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère », c'est le même qui a dit « tu ne commettras pas de meurtre », et c'est le même qui a dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ce n'est pas possible d'obéir à tous et transgresser contre un seul et être innocent. On devient coupable de tous. C'est ça ce qu'il dit. Et le verset 12, alors il dit que nous devons parler et agir comme des gens qui seront jugés d'après cette loi. Non seulement parler, on peut avoir de très beaux discours en disant « moi je fais discrimination, je fais du favoritisme, on ne veut personne », mais parler et agir, parce que nous serons jugés par cette loi. Et si nous refusons de faire miséricorde envers d'autres, verset 13, le jugement sera sans miséricorde envers nous. Mais vous pouvez vous dire à ce stade, mais attends, pourquoi cette insistance sur l'obéissance? Pourquoi ces paroles par rapport à la loi, transgression, juger? Je pensais que la foi était suffisante. Je crois en Dieu, je crois en Jésus, c'est tout. Je n'ai pas à m'occuper de si je fais du favoritisme ou pas. Et après tout, n'avez-vous pas insisté tout au long de l'année de la réforme 2017? La foi seule? C'est ça qui compte. Mais la deuxième exhortation de Jacques ce matin se trouve au verset 14 à 26. Et il dit ceci, pas de foi sans les œuvres. Pas de foi sans les œuvres. La foi est importante, cruciale. Jacques est tout à fait d'accord. Mais Jacques dit, si cette foi ne produit pas des œuvres d'obéissance à Dieu, elle n'est pas une vraie foi. Il affirme cela clairement au verset 14, lisons-le. « Mais frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver ?» Et donc Jacques n'est pas contre la foi. Il faut être au clair là-dessus. Il est contre une fausse foi. Quelqu'un qui dit avoir la foi, mais qui ne l'a pas en réalité. Et verset 14, nous rencontrons quelqu'un qui dit avoir la foi, mais il n'y a aucun signe de vie chrétienne chez lui. La personne dirait peut-être, oui, je suis chrétien. Oui, je me suis converti il y a longtemps. J'ai été baptisé ici, dans cette église. Je crois en Dieu. Je crois en Jésus. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Cette personne dit qu'elle a la foi. Mais on voit qu'elle n'a aucune envie de suivre Dieu. Aucune envie de lui plaire et de mettre fin à ses anciennes habitudes. Est-ce que ce genre de foi va sauver quelqu'un? Demande Jacques. La réponse à la question est non. Mais pourquoi? Pourquoi? Jacques nous en donne deux raisons. Premièrement, parce qu'une foi sans les œuvres ne sert à rien. Une foi sans les œuvres ne sert à rien. Et à titre d'exemple, il nous en donne une illustration au verset 15 et 16, lisons cela. « Si un frère ou une sœur sont nus et manque de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? » Imaginez un peu la scène, on est de nouveau au supermarché. Voilà, toutes les histoires, c'est à propos du supermarché aujourd'hui. On est là, on a fait nos courses, le caddie est rempli, on est en train de nous diriger vers la voiture. Et un frère de l'église vient, et on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas juste qu'il a un petit peu faim, parce qu'il a dû attendre une demi-heure de plus pour manger, mais c'est qu'il meurt de faim. Et nous, on lui dit, mais allez, courage, courage mon ami, porte-toi bien, j'espère que tu trouveras de la nourriture, et salut. Et on poursuit notre route vers la voiture, le caddie rempli de nourriture. À quoi ça sert, ces belles paroles? Rien, strictement rien. Ça ne fait rien pour aider la personne. Et le verset 17 nous dit, il en est de même avec la foi. Si la foi n'a pas des œuvres, elle est morte en elle-même. C'est des paroles en l'air, finalement. Oui, oui, je suis croyant. Oui, je suis chrétienne. Oui, je vais à l'église. Mais sans aucune œuvre. Cette foi est morte. Et à ce stade, peut-être vous êtes en train de se dire, mais est-ce que Jacques est en train de dire autre chose que l'apôtre Paul ailleurs dans le Nouveau Testament? Parce que lui, il insiste tellement sur la foi seule, pour nous sauver. Mais Jacques croit aussi que nous sommes sauvés sur la base de notre foi dans notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. On a vu ça au verset 1, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Mais ici, il est en train de critiquer une foi qui n'est pas la vraie foi, une foi qui ne sauve personne. Et Paul serait tout à fait d'accord avec cela. En Galates, il dit que la foi doit agir dans l'amour. En 1 Thessaloniciens 1, il remercie Dieu pour la foi qui se met à l'œuvre chez les Thessaloniciens. Paul et Jacques ne se contredisent pas. Dans le temps, lorsqu'on voulait régler une dispute, on faisait des gens de, comment est-ce qu'on dit ça, avec des épées, des duels. Duel, voilà. Donc, parfois, les gens imaginent que Paul et Jacques sont en train de, voilà, se combattre l'un contre l'autre, les épées à la main, en disant, non, c'est la foi seule. Et Jacques dit, non, c'est les œuvres. Mais ce n'est pas du tout ça. En fait, ils sont en train de se tenir dos contre dos, en train de combattre deux erreurs différentes. Ils ont tous les deux l'épée à la main, dos contre dos, ils sont tout à fait d'accord. La foi vivante produit des œuvres, et on ne sauve pas la foi en Jésus-Christ. Mais la foi qui sauve ne sera jamais seule. Et en ce qui concerne Paul, il est en train de combattre des gens qui pensent être sauvés en accomplissant les bonnes choses. Et si c'est vous ce matin, si vous pensez que vous pouvez être sauvé par Dieu en faisant le bien, Paul dit non, c'est par la foi seule en Jésus. Et Jacques, de son côté, l'épée à la main, il est en train de, métaphoriquement parlant, il parle, il est confronté à des gens qui ont mal compris cela et qui se contentent d'être des croyants mais non pratiquants, qui se disent j'ai la foi, pas besoin de mettre cela en pratique dans ma vie. Aucun désir d'obéir à Dieu. Et Jacques dit, attention, si votre foi n'est pas accompagnée d'œuvres, des œuvres, elle ne sert à rien. Elle ne vous sauvera pas. Il n'y a aucune contradiction entre Jacques et Paul. Ils combattent contre les erreurs différentes. Et Jacques dit, faites très attention si vous avez ce genre de fausse foi. Et verset 18, Jacques introduit la voix d'une autre personne qui compare deux personnes. Il dit, toi la foi, moi j'ai les œuvres. Comme si c'était chacun son truc. On peut, voilà, avoir la foi ici sans les œuvres, et moi je peux avoir les œuvres. Non, Jacques dit que c'est impossible. Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, chose impossible. Comment va-t-on montrer cela à quelqu'un? Et Jacques dit, je te montrerai ma foi par les œuvres. La vraie foi se manifeste à travers les œuvres. Mais quelle est cette fausse foi dont Jacques parle? Au verset 19, nous avons un aperçu. Mais tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. La foi en question ici, c'est des croyances. La personne croit qu'il y a un seul Dieu, il n'y en a pas d'autre. Jacques dit, très bien. Mais ce n'est pas la foi, ça. Parce que les démons le croient aussi. Ceux qui sont farouchement opposés à Dieu, mais ils tremblent. Au moins, eux, ça fait quelque chose chez eux, ils tremblent. Mais vous, cela ne fait rien. Vous dites croire en Dieu, mais cela n'a aucun impact dans votre vie, le lundi jusqu'au samedi. Quelqu'un peut bien réciter le credo de Notre Père, lire à haute voix la confession de foi de notre Église, être entièrement d'accord, dire Amen à haute voix, dire oui de la tête durant la prédication, mais aller droit vers le jugement de Dieu. une croyance purement intellectuelle qui ne se traduit pas dans les actes ne sauve pas, elle ne sert à rien. Et au verset 20 à 26, Jacques nous en donne deux exemples de l'Ancien Testament pour nous expliquer qu'une foi sans les œuvres ne sert à rien, parce que la vraie foi est toujours accompagnée des œuvres. Ici, il prend deux personnes très différentes, Abraham, l'ancêtre du peuple d'Israël, et Rahab, une prostituée. Et tous les deux ont fait preuve d'une foi authentique. Mais comment on peut le savoir? Par leurs œuvres. Et dans ce verset, Jacques utilise le terme « justifié » un peu différemment de la manière dont Paul l'utilise. Chez Paul, peut-être vous savez, la justification est le verdict divin. On est juste aux yeux de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Mais Jacques ici utilise le terme pour parler plutôt d'une démonstration visible du salut de quelqu'un. Abraham, par exemple, a démontré qu'il était sauvé en règle avec Dieu, car il a accompli des œuvres par la foi. Il n'avait pas une fausse foi, juste les paroles en l'air. « Oui, Seigneur, je crois en toi. » Non, il l'a démontré. Il a justifié cela. Prenons une illustration. Ce n'est pas dans le supermarché cette fois, mais voilà. Imaginons que je vous dis, il y a une bombe sous le bâtiment. Ici, il y a une bombe sous le bâtiment qui va bientôt exploser. Comment vais-je savoir si vous me croyez ou pas? Est-ce que c'est parce que vous allez me dire que vous me croyez? Oui, oui, je crois. Oui, je te crois fermement, tout mon cœur. Je te crois. Ou peut-être si je passais avec un formulaire vous demandant croyant ou non-croyant, et on se divise dans la salle croyant, non-croyant. Mais à ce stade, si vous êtes toujours là en train de me répondre, je sais que vous ne croyez pas. Si vous croyez, vous serez tout de suite à la sortie, en train de courir aussi vite que possible. Si vous me croyez, ça va se voir concrètement dans vos actes. Ce n'est pas juste le fait de dire, « Ah oui, il y a une bombe, oui, je crois, oui, non, certainement. » Et vous êtes prêt à défendre ça contre les autres. Mais vous ne croyez pas, parce que cela ne se traduit pas dans les actes. Il n'y a pas de bombe. Mais c'est la même chose avec Abraham et la foi biblique. Verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Dieu lui avait fait une promesse durant une descendance et Abraham a dû croire Dieu. C'est une promesse pas facile à croire parce qu'il était très âgé. Mais Abraham a cru Dieu. Et Dieu lui a ensuite demandé de tuer son fils unique, Isaac, pour le mettre à l'épreuve. Et c'est à ce moment-là qu'on voit vraiment à quel point la foi d'Abraham est authentique, parce qu'il est prêt à agir selon la parole de Dieu, même s'il ne voit pas comment la promesse peut être accomplie. C'est à ce moment-là qu'on voit vraiment qu'il est croyant. Ce n'est pas juste dans le fait de dire « Oui, je crois. Je suis croyant. » Parce que lorsque ça se traduit dans les actes, verset 22, « Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi, verset 23, s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. » Jacques nous rappelle, c'est la foi qui est cruciale, verset 23, c'est 22, c'est la foi qui agit avec les œuvres, mais pas la foi toute seule, qui ne produit pas d'œuvres. Une foi comme Abraham. Et c'est comme ça qu'il peut dire le verset 24, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres. On voit si quelqu'un est sauvé ou pas, par les œuvres, pas par une foi seulement, une foi morte qui ne produit pas d'œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nous sommes sauvés par la foi seule en Jésus-Christ. Mais cette foi ne sera jamais seule. Et avec Rahab, c'est la même chose, verset 25. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers, qu'elle les fit partir par un autre chemin? Et la conclusion de Jacques, verset 26, comme le corps sans esprit, sans souffle, est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Une foi qui ne produit pas d'œuvres est aussi vivante qu'un cadavre. Il est impossible, dit Jacques, d'avoir une vraie foi qui ne produit pas d'œuvres. Et on pourrait se demander, mais quelles sont les œuvres dont Jacques parle? Il est assez vague dans ce passage, mais rappelons-nous ce qu'il a déjà mentionné dans la lettre. Peut-être qu'il a en tête quelqu'un qui dit qu'il a la foi, mais dès que l'épreuve arrive, il râle, il blâme Dieu. Peut-être c'est la personne qui est fière de sa réussite dans la vie, méprise ceux qui n'ont pas réussi aussi bien que lui. Peut-être c'est une personne qui est lente à écouter les autres, rapide quand il s'agit de parler et de parler d'elle-même, rapide à se mettre en colère. Elle sait que la Bible parle clairement contre une certaine pratique dans sa vie, mais elle continue de marcher dans cette voie. Elle ne fait aucun effort pour brider sa langue. Elle méprise les personnes les plus faibles et plus vulnérables dans la société. Et elle fait preuve de favoritisme dans ses relations avec les autres. Est-ce que cela pourrait être votre cas ici ce matin? Vous dites, peut-être vous êtes croyant, mais cela n'a aucun impact dans votre vie. Jacques vous avertit ce matin. Mais qu'est-ce qu'il faut faire si nous avons pris conscience que nous n'avons pas de vraie foi? Faut-il redoubler d'efforts dans nos œuvres? Non. D'abord, il faut placer notre foi dans le Seigneur, le glorieux Seigneur Jésus-Christ. Venez au parcours fondement que nous allons organiser à l'Église. Découvrez la vraie foi en Christ qui donne une vie radicalement transformée. J'ai parlé à quelqu'un de cette église récemment. Cette personne m'avait raconté qu'elle avait grandi à l'église. Elle connaissait toutes les bonnes réponses. Mais sa foi était une foi purement intellectuelle. Et ce n'était que lorsqu'un ami lui a demandé en quoi il croyait exactement, qu'il lui a expliqué que nous sommes pécheurs, que Jésus est mort à la croix pour nous, il s'est rendu compte qu'il n'avait jamais placé sa foi en Jésus lui-même. Il était censé croire tout cela, mais il n'avait jamais pris le pas lui-même. Et donc il l'a fait tout de suite en parlant avec son ami non-croyant. Peut-être c'est le cas pour vous ce matin. Il est temps de croire en Jésus véritablement et puis de vivre une vie dans la soumission à notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, sans faire du favoritisme, mais en aimant notre prochain comme lui-même. Mais un dernier mot pour certains ici, la plupart qui sont véritablement convertis. Mais peut-être on est découragé dans notre vie chrétienne. On lit cela et on se dit, mais bon, on n'est pas à la hauteur. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas vraiment chrétien? Non, ce n'est pas ce que Jacques est en train de dire. On n'a pas à vivre la perfection, mais d'avoir une foi authentique qui se met à l'acte. Revenons à la croix. Voyons notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a lavés de nos péchés, qui nous a promis un royaume éternel à nous qui l'aimons, et que votre foi produise de plus en plus d'œuvres d'obéissance pour sa gloire. Non pas pour être sauvés, mais parce que nous avons été sauvés. Prions ensemble. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Notre Père, nous voyons avec tant de clarté ici qu'une telle foi, qui est juste une croyance purement intellectuelle, ne sauve personne. Ce n'est pas le fait de dire qu'on croit qui fait de nous des chrétiens, des rachetés, des sauvés. Et nous te prions que s'il y en a ici ce matin qui n'ont jamais vraiment placé leur foi dans le glorieux Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort à notre place, qui n'ont pas une vraie foi qui se met à l'œuvre, qu'il puisse y avoir une prise de conscience, des actions concrètes de repentance, de foi authentique. Et pour les autres qui sont déjà convertis, Seigneur, que nous puissions faire preuve de cette foi authentique dans notre vie, que nous ne puissions pas faire preuve de favoritisme. Pardonne-nous des fois, on fait preuve de favoritisme. Que notre foi agisse de plus en plus avec des œuvres à ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.
Merci Robin, mais nous allons poursuivre notre réflexion par rapport à ce que nous venons d'entendre avec notre prochain chant. Seigneur, à ton regard de flamme, nous allons dire, rien n'est couvert, rien n'est caché, qu'il pénètre au fond de notre âme et qu'il juge en nous nos péchés. Mais ça ne nous laisse pas là, ça nous mène à Jésus-Christ et à la croix, comme Robin vient de mentionner. Donc, mettons-nous debout pendant ce chant. Les ados, vous allez monter avec Noah pour discuter de ce que nous avons entendu. Et puis, nous allons poursuivre avec la scène. Chantons ensemble. Participer ensemble dans ce repas.